lire Amos, c'est à droite des psaumes, après les prophètes Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Abias, Jonas. Donc sur votre droite, par rapport aux psaumes, pour ceux qui ont un petit peu de mal, c'est les petits prophètes, petits par la taille, mais grands par le pouvoir. Alors on les appelle les petits prophètes, hein, mais... Amos. Voilà. On entend les pages tourner. Chapitre 8. Et au verset 11 et 12. Psaume chapitre 8. 8. 8. Verset 11 et verset 12. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront point. Ne trouvez-vous pas que c'est un texte surprenant? Le prophète Amos, au 8e siècle, dans les années 750-760 avant Jésus-Christ, s'adresse au peuple divisé, le nord et le sud. Ce peuple est rebelle. Ce peuple ne considère pas Dieu. Et dans ce chapitre 8, il adresse non pas une exhortation, mais il adresse une sorte de punissement. Vous allez me chercher, mais finalement vous n'allez pas me trouver. Parce que votre motivation n'est pas la bonne. Parce que votre motivation n'est pas la bonne. Souvent notre vie chrétienne se résume en une phrase. J'espère que je ne vais pas choquer. Je ne suis plus sous la loi, mais maintenant je suis sous la grâce. Donc je ne suis plus obligé de ne rien faire. Puisque maintenant tout m'est donné gratuitement et tout m'est permis, voilà. Christ serait-il venu abolir la loi ? Pouvons-nous trouver la grâce sous l'ancienne alliance ? Ah non, la grâce, c'est dans le Nouveau Testament, c'est nous, les héritiers de la grâce. Alors je vais faire un constat. Si la grâce ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, si alors nous sommes débarrassés de cette loi morale que Dieu a fixée dans Deutéronome 5 et dans Exode chapitre 20, alors nous avons libre arbitre au meurtre, à l'idolâtrie, au faux témoignage, au non-respect des parents, au vol, à l'adultère et j'en passe. Notre difficulté, frères et sœurs, notre difficulté de vie chrétienne, c'est d'intégrer 77% de notre Bible. 77% de notre Bible, ça représente 39 livres. 39 livres de l'Ancien Testament. Ces livres de l'Ancien Testament qu'on a tellement de mal à lire, tellement de mal à comprendre, tellement de mal à dire, mais ça, c'est pas pour nous, c'était pour eux. La grâce, nous allons le voir ce matin, se trouve dans l'Ancien Testament. Notre Dieu, on le dit, ne change pas. Aurait-il changé à l'orée du Nouveau Testament ? aurait-il changé dans notre 21e siècle au point de dire « Tiens, ce que j'ai voulu pendant toutes ces années, ces milliers d'années, a changé. » Si Dieu a donné la loi, il ne l'a pas donnée pour nous sauver. Si Dieu a donné la loi, il ne l'a pas donnée pour nous racheter. Mais il l'a fait dans un contexte de rachat. Je lis avec vous, si vous voulez tourner les pages de l'Écriture, dans le chapitre 20 du livre de l'Exode. C'est un peu moins compliqué à trouver que Amos. Genèse, Exode, c'est le deuxième livre de notre Bible, dans l'ordre écrit. Exode chapitre 20. Versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais en esclavage. La loi intervient au chapitre 20 dans un contexte de libération, mes amis. Vous étiez esclaves, je vous ai libéré. Dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas la grâce d'être libéré de ce que le diable nous retient? On a le contexte. Quel était le but de donner la loi? Si Dieu est un Dieu de grâce, est-ce que notre Dieu est un Dieu dur? Un Dieu tellement méchant, difficile, rigoureux, rigide? Vous savez, dans notre éducation, on tombe toujours sur des professeurs, sur des instituteurs, où avant de rentrer dans la classe, on se dit, oulala, de quelle humeur va-t-il être? Et plus tard, c'est nos patrons, nos adjoints, nos partenaires. Romains 7 nous donne la réponse. Pourquoi Dieu a donné la loi? Romains 7, verset 7, « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ?» Nouveau Testament, hein ?« Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point. » La loi était là pour révéler le péché, c'est-à-dire que le péché existait avant la loi. Le péché était dans notre monde avant que Dieu n'indique « C'est pas comme ça que je vous ai appris. C'est pas comme ça que vous étiez avant. » Vous savez, il y a toujours un avant et un après. Quand on transcrit la loi, hein, Afflelou dit ça, c'était avant. Romains chapitre 15, verset 15 nous dit, chapitre 4, pardon, verset 15 nous dit, car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Si la loi ne révèle pas où est le péché, alors mes amis, nous serions libres de pécher. Mais quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le péché. Quand Dieu a eu ses premières relations avec Adam et Ève, il ne l'a pas eu dans le péché. Quand les enfants d'Adam et Ève sont nés, quelle a été une des premières périodes de leur vie? C'est de s'entretuer. Quand l'homme est sur terre, il est entaché par ce péché. Et tant que Dieu ne lui le montre pas, alors il ne peut pas le révéler. Mais là, il dit, s'il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Notre Dieu nous a fait connaître dans l'Ancien Testament le pourquoi Jésus devait mourir. Mais l'Ancien Testament, c'est tellement important que nous le négligeons, finalement. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Si Dieu nous a laissé 66 livres, au moins c'est ce que nous reconnaissons, pourquoi se concentrer sur 27 et encore? sur quelques-uns. Parce que dans ces quelques-uns, nous enlevons toutes les parties qui nous dégagent. On cherche le meilleur, là où on est confortable, là où on n'est pas trop attaqué. On va lire la vie de Jésus-Christ dans les évangiles. Mais ça ne nous concerne pas. On va lire quelques psaumes qui nous encouragent. Mais quand on va lire le reste, quand on va découvrir ces 456 passages à propos de la venue de Jésus-Christ, et qu'on va faire le constat à la fin des évangiles, mes amis, on le lisait ce matin avec les jeunes, à la fin des évangiles, dans Marc 16, où Jésus vient voir Marie de Magdala, Jésus vient voir ses deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus vient voir ses 11 disciples qui l'ont accompagné pendant ces 3 années et fait le constat. Vous ne me croyez pas. Comment nous, au XXe siècle, on peut se dire « Je crois à toute l'Écriture si je ne la lis pas. » La loi a été donnée par un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, pour élever l'homme au standard de Dieu. La règle à mesurer de ce qui est bien et mal. Vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, vous voulez le savoir? Alors je vais vous montrer. Et finalement, il est dit même qu'à la fin des temps, ce qui est mal devient bien. Ce qui est mal devient bien. Et nous n'avons pas tendance un peu à tomber dans cette idée-là. Tout le monde le fait, Jean-Claude. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dans Matthieu, au chapitre 5, verset 17, si vous voulez suivre. Matthieu, chapitre 5, verset 17. C'est Jésus qui parle. Dans le sermon sur la montagne. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir. C'est intéressant combien rapidement on se débarrasse vite de nos obligations. Qu'on se débarrasse vite, finalement, de ce qui nous semble un carcan, qui nous semble étroit. Libre. Deux versets plus loin, dans l'évangile selon Matthieu 5, verset 19, il dit « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, mais celui qui les mettra en pratique, qui les enseignera, celui-là sera appelé grand. » Mes amis, est-ce que nous avons le droit de négliger ce que Dieu a dit dans sa parole? De quelle autorité usons-nous pour négliger le fait que Dieu a pris tellement de soins, tellement d'amour, tellement de persévérance pour nous enseigner ces choses afin que nous soyons non pas écrasés, anéantis, mais au contraire, élevés à la droite de Dieu. Et finalement, aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est bien et mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On s'est laissé séduire par notre monde, parce que quelque part, nous ne confrontons pas la parole de Dieu. Parce que nous avons du mal à la comprendre. Est-ce que Paul, l'apôtre Paul, celui qui a transcrit la loi, ne nous enseigne pas dans le Nouveau Testament que la loi est abolie? Que nous ne sommes plus obligés d'aimer, de respecter, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir? Romains chapitre 3. Verset 31. Romains chapitre 3. Verset 31. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi ? Jamais de la vie. Au contraire, le texte dit là, c'est Paul qui parle. Nous confirmons la loi. Mais alors, Jean-Claude, t'es en train de nous dire ce matin qu'on est sous la loi ? Qu'on doit refaire tout ce que les gens de l'Ancien Testament ont fait ? Il y en a qui se disent, mais pourquoi il est resté ici, lui ? La Bible ne dit pas ça, mes amis. Regardez Jérémie 31. Le Dieu de grâce. Le Dieu qui ne veut pas nous écraser. Le Dieu qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a payé ma dette. Voilà ce qu'il dit par le prophète Jérémie. Chapitre 31. Et si ce n'est pas souligné dans votre Bible, si vous n'hésitez pas à souligner, soulignez. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Vous y êtes ? Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître. Déclaration du Seigneur. Mais voici, l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, je pardonnerai leurs fautes, je me souviendrai plus de leurs péchés. C'est pas un Dieu de grâce, et c'est, il me semble que Jérémie, c'est l'Ancien Testament. C'est ce même Dieu de grâce qui dit à Adam et Ève qu'il va envoyer dans Genèse 3:15, qu'il va envoyer quelqu'un pour anéantir ce péché. Dieu a donné la loi à Moïse. Il l'a gravée dans la pierre. L'Ancien Testament déjà nous prévient que Dieu va le graver dans notre cœur, dans la chair. Il accomplit le miracle extraordinaire de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et dessus, il a inscrit sa loi. Son respect, son amour, sa fidélité. Alors, frères et sœurs, je m'interroge dans ce mois de Pâques où nous allons célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas ? Dans le Nouveau Testament, dans cette deuxième partie, dans les 34% qui restent. Mais qui apparaît 456 fois dans l'Ancienne Alliance. Où en fait, ces Juifs ont pu être convaincus ou auraient dû être convaincus en lisant simplement l'Ancien Testament, puisque c'est tout ce qu'ils avaient. Un Dieu de grâce qui dit « Je vais graver dans votre cœur quelque chose que vous n'oublierez pas, si vous me connaissez. » Pas sur un cœur de pierre, pas sur quelque chose qui n'est pas vivant. La pierre, c'est pas vivant. J'ai grandi dans une région où la pierre de Volvic était appelée pierre vivante. Mais elle était tellement vivante qu'elle était noire. Et que les gens avaient à peu près le caractère et le cœur de la même façon. et ne se laissaient pas pénétrer par l'Évangile. Et il a fallu que Dieu casse ce cœur de pierre, qu'il prenne son marteau-piqueur pour enlever ce mauvais cœur, ce cœur qui générait tellement de mauvaises actions, tellement de rébellions, que j'étais l'ennemi de Dieu. Mais la pierre n'a pas résisté pour mettre un cœur de chair. C'est pas la grâce de notre Dieu. C'est pas ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas ce Dieu de David à qui il promet « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu seras tout seul ?» C'est une nouvelle écriture. « Je serai avec toi ?» C'est pas ce Dieu qui promet « Abraham, tu auras un fils de ta postérité, et par ce fils, et par toi, toutes les générations seront bénies. » C'est pas un Dieu de grâce. Nous sommes descendants, dépendants de cette grâce. Juge un livre. Vous savez où il est souvent répété ce refrain. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça ne vous rappelle pas un siècle? Ça n'écrit pas un peu ce 21e siècle? Non? Juge, chapitre 2, verset 1. Regardez ce que Dieu dit. Dans l'Ancien Testament, ce Dieu de loi, ce juge, c'est pas le juge unique, hein. Chapitre 2, verset 1, il dit « Le messager du Seigneur monta à Gilgal, à Bokim, et dit « Je vous ai fait monter d'Égypte. » On va voir encore, comme tout à l'heure. « Je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. » Et j'ai dit, voilà les paroles que Dieu prononce, « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Jamais. Vous savez, il y a une vieille, moi j'aime bien les chansons de mon époque. Et il y avait un chanteur qui disait que voilà, le Seigneur dans son atelier s'énervait un petit peu à savoir comment il allait faire le monde. Hein, ceux qui ont à peu près ma génération, ils rigolent, ils savent à qui je fais, hein, monsieur Eddie Mitchell. Et alors, il dit finalement c'est compliqué de faire un monde. C'est compliqué de faire un monde. Et on imagine beaucoup Dieu d'un seul coup se souvenir qu'il avait fait des promesses. Se souvenir que, vous savez, on donne à Dieu un peu cette maladie triste et malheureuse d'Alzheimer, où Dieu ne se souvient plus. Et d'un seul coup, il se frappe le front, hein, comme Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Ah oui, c'est vrai, je leur avais dit un truc. Mais Dieu, il dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Jamais. Mes amis, on est à quelle époque là? À l'époque des juges. À l'époque où chacun fait ce qui lui semble bon. Ou finalement, la loi de Dieu, après tout, pourquoi la respecter? Alors, quand il y a les juges, ça va à peu près. Mais dès que les juges s'en vont, ça va plus du tout. Dieu, amis, nous a donné l'Esprit Saint pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous rappeler, pour nous conduire. Il ne nous a pas envoyé un juge. Dieu a-t-il rompu son alliance entre avant et après? Dieu a gardé son alliance. Et Jésus-Christ est l'aboutissement de l'alliance. L'assurance de l'alliance. Où seul l'Ancien Testament regardait en avant, et on peut regarder nous maintenant en arrière, avec sécurité. Et cette arrière nous tourne vers un autre avant. On l'a fait tout à l'heure avec la scène. Non? Ou à chaque fois qu'on prend la scène, on regarde et dit « Seigneur, reviens bientôt. » Tu as préparé avec passion, avec attention cette place extraordinaire où je vais passer l'éternité avec mes frères et sœurs. Où je vais réaliser que ta grâce est vraiment efficace. Je ne romprai jamais l'alliance avec vous? Ne trouvons-nous pas la grâce dans l'Ancien Testament? Ne trouvons-nous pas l'alliance dans l'Ancienne Alliance, déjà? L'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est le plan unifié de Dieu. On ne peut pas négliger l'un pour avoir l'autre. Regardez ce que dit Romains chapitre 15. Regardez, Romains 15, si vous tournez les pages avec moi, verset 8. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père. Verset 9. Tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. Dieu avait anticipé. Quand on parle du Nouveau Testament, on dit, ah, mais à l'époque de l'apôtre Paul, voilà, ça y est, il y a eu ouverture aux nations. Mais l'ouverture aux nations, l'ouverture aux non-juifs, elle est depuis le livre de la Genèse. Dieu n'a pas un Dieu changeant. On dit, vous savez, avec l'âge, les choses changent. Quand on est une certaine tranche d'âge, on est comme ça, puis une certaine tranche d'âge, c'est normal, c'est l'âge. Notre Dieu, il est hors de l'âge. Il ne change pas. Il n'a pas ses envies. Chérie, va me chercher des fraises. On est en hiver, mais je veux des fraises. Non ? Il ne tombe pas enceinte, mon Seigneur. Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront, tous les peuples de la terre seront bénis. C'est la promesse faite à Abraham. Tous les peuples, et nous sommes ce peuple. Vous vous rendez compte? Dieu qui, dès la Genèse, avait entrevu, là, ce 6 avril, à Vigneux-sur-Seine, où son peuple pourrait se retrouver à la lecture de l'Ancien Testament. Se dire, mais ce Dieu de grâce, il se trouve là aussi. On a souvent le sentiment que, voilà, dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu dur, et dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu mou. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre l'Ancien et le Nouveau? Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Les cérémonies représentant l'œuvre du Christ n'ont plus cours. Christ est venu. Ce qui était promis s'est réalisé. Le péché, lui, reste dans le cœur de l'homme. Mais Jésus dit à tout homme, à tout homme, à toute femme, à quiconque, t'es encore pécheur, tu n'es pécheur. Mais je vais te dire quelque chose, j'ai payé. J'ai payé. Il a même dit à la croix, tout est accompli. Et on hésite. Parce que la loi, c'est dur. Aimer, c'est dur. Pardonner, c'est dur. Ne pas avoir envie, c'est dur. Est-ce que c'est si dur que ça? Ou c'est tout simplement parce que notre cœur de pierre, là, il dit, oh, mais c'était tellement bien avant. Le lecteur du Nouveau Testament, comme celui de l'Ancien Testament, est appelé à s'écarter du péché. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous le pouvons. Parce que Jésus a crucifié à la croix notre adversaire. Il lui a annoncé sa défaite. Il a payé ma dette. Beaucoup de nous prononçons souvent cette phrase, voilà, je suis plus sous la loi, Mais je suis sous la grâce. Je suis plus obligé. C'est vrai. Vous savez que vous avez raison. Je vais dire à la fin du message, vous avez raison. Vous n'êtes pas obligé d'aimer. C'est vrai. Vous pouvez maintenant aimer. Vous n'êtes plus obligé de prier. Vous pouvez prier. Dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur, une fois par an, rentrait dans le lieu saint. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu saint qui n'a pas été fait de main d'homme et nous a donné un accès direct. Une connexion qui n'est jamais bouchée. Un canal qui n'est jamais rompu. Qui est définitivement ouvert, qui nous ouvre la porte. Mais c'est le même que celui qu'on lit dans l'Ancien Testament. Ce Dieu de patience, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui nourrit, ce Dieu qui accorde, ce Dieu qui conduit, celui qui guide, celui qui restaure, celui qui nourrit même le prophète Élie avec les oiseaux. Et on l'entend le dimanche matin, tiens, c'est bizarre, Dieu a fait des choses extraordinaires. Et nous sommes parfois surpris. Est-ce que Dieu est capable de le faire? Alors oui, il y a un changement ancien, nouveau. Et je dirais que le changement, il s'est fait dans la continuité, dans la promesse. Frères et sœurs, je nous encourage. Et je ne veux pas dire « je vous encourage ». Je nous encourage à lire la Bible dans son intégralité. À ne pas écarter ce qui nous semble des passages difficiles. Des livres qui ne nous intéressent pas parce qu'ils nous intéressent. Ils expliquent, ils montrent ce Dieu de grâce. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, éduquer dans la justice. Et ce n'est pas marqué toute écriture sauf l'Ancien Testament, sauf le livre des juges, sauf le livre d'Ézéchiel, sauf le livre de Daniel, sauf ce petit prophète Amos que je ne comprends pas bien là, ce qu'il dit. Le livre de 2 Samuel au chapitre 22 verset 50 nous dit « C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, Seigneur, je chanterai pour ton nom ». Il fait de grandes choses pour le salut de son roi. Il agit avec fidélité envers l'homme qui a reçu son onction, envers David, envers sa descendance. Elle termine pour toujours. N'est-ce pas un Dieu extraordinaire que nous pouvons découvrir dans la Bible tout entière? Le jour de Pâques, les Juifs, et on le verra la prochaine fois, par le discours de Pierre, Pierre a fait référence à tous les livres de l'Ancien Testament, au passage de l'Ancien Testament, et uniquement ceux qui avaient connaissance de ceci ont pu se dire « Ça, c'est la promesse accomplie. » Et parfois, nous nous laissons surprendre, parce que nous ne connaissons pas ni le Dieu, ni sa parole. On a lu tout à l'heure 2 Samuel 22, 50. Maintenant, on dit sous la plume de David, Psaume 18, verset 49, « C'est pourquoi je te célébrerai. » C'est exactement le même texte. « Parmi les nations, je chanterai pour ton nom. Il a fait de grandes choses. » C'est intéressant. Deux livres nous rappellent la même chose. Sans la lecture, sans la compréhension de ce que dit dans toute sa parole, Ancien, Nouveau Testament, mes amis, nous passerons à côté. De l'entièreté de Dieu, du fait que Dieu est un Dieu entier, un Dieu où il n'y a rien à jeter, pas d'os, qui ne sont pas gérables. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, c'est ce qu'on lit dans Matthieu 24, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Mon souhait, mon exhortation, mon encouragement, c'est que nous devenions cette Église qui a soif et faim de la parole de Dieu. Que nous puissions l'étudier ensemble, l'apprendre ensemble, la mettre en pratique ensemble, l'échanger ensemble. Parce que ce qui est dit du prophète Amos, du peuple qui était rebelle, la Bible dit qu'à la fin des temps, il en sera de même. Ou un jour, comme les vierges folles, des hommes et des femmes viendront taper à la porte et on leur dira « c'est trop tard ». Alors j'espère que pour nous, c'est pas trop tard. Et aujourd'hui, il n'est pas trop tard. La porte de la grâce est grande ouverte. Dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Que Dieu nous encourage à lire cette Bible dans son entier, à ne pas la négliger. Parce que la Bible dit que c'est la parole de vie. Et celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que lorsque nous regardons avec attention ton écriture, nous y trouvons source d'encouragement. Oui, ta parole nous révèle notre péché. Oui, ta parole nous rappelle que nous avons des engagements. Mais ta parole nous rappelle combien toi, tu as été fidèle à tes engagements. Et combien tu l'es encore. Alors Père, je veux ce matin te prier pour ton peuple. Pour nous qui clamons, déclarons, assurons que nous sommes tes enfants, que nous t'aimons au plus haut point. Et qui négligeons ta parole. Que tu nous donnes un zèle nouveau, que tu nous encourages les uns les autres à lire cette parole, à y réfléchir et à pratiquer cette parole. Que tu encourages les frères et sœurs, que tu nous encourages en tant qu'Église. Nous sommes ton Église, Seigneur, nous ne sommes pas une Église à notre intention, mais c'est toi qui nous as rassemblés. C'est toi qui nous tiens ensemble. C'est toi qui nous permet d'échanger ensemble. Alors encourage-nous, Seigneur. J'aimerais prier ce matin. Peut-être pour ceux qui ont du mal à lire leur Bible. Ceux et celles dont la lecture n'est pas l'exercice le plus facile. Qui peut-être en souffrent. Et qui disent ce matin, je veux bien être encouragé, qu'on prie pour moi, et que nous trouvions les moyens de nous encourager ensemble à lire pour mieux connaître notre Dieu. Alors si ce matin, vous avez besoin d'être encouragé à redécouvrir ce que Dieu dit, ou à découvrir tout simplement, à relire passionnément toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je veux bien prier avec vous, parce que c'est important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4. C'est un moyen pour résister à l'adversaire, mes amis. Et l'adversaire, il ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas des gens qui ciblent et d'autres qui ne ciblent pas. Mais nous sommes sa cible. Alors y aurait-il un frère, une sœur, quelqu'un? Oui, que Dieu vous encourage, oui, oui. Oui, oui, oui. Que Dieu nous encourage, que nous trouvions les bons outils. Oui, ma sœur, que Dieu prie pour vous, oui. Oui. On va mettre au point des outils, frères et sœurs, pour nous encourager. Pas nous écraser, pas nous juger, mais nous encourager. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de vie. Oui, ma sœur, que Dieu vous bénisse, oui. Merci, Seigneur, pour toutes ces mains qui se sont levées. C'est vers toi qu'elles crient, Seigneur. Elles ont faim de toi et tu veux me donner, nous donner, les bons outils pour encourager, pour qu'ensemble nous lisions cette parole, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme à ta lumière, à ton standard. Au nom de Jésus-Christ. Amen.